Samuel Beckett, Le Dépeupleur, avec David Warrillo.
Ces jours où des corps vont cherchant chacun son dépeupleur, assez vaste pour permettre de chercher en vain, assez restreint pour que toute fuite soit vaine. C'est l'intérieur d'un cylindre surbaissé, ayant 50 mètres de pourtour et 16 de haut pour l'harmonie. Lumière. Sa faiblesse. Son jaune. Son omniprésence, comme si les quelques 80 000 centimètres carrés de surface totale émettaient chacun sa lueur. Le halètement qui l'agite, il s'arrête de loin en loin, tel un souffle sur sa fin. Tous se figent alors. Leur séjour va peut-être finir. Au bout de quelques secondes, tout reprend. Conséquence de cette lumière pour l'œil qui cherche, conséquence pour l'œil qui, ne cherchant plus, fixe le sol ou se lève vers le lointain plafond où il ne peut y avoir personne. Température. Une respiration plus lente la fait osciller entre chaud et froid. Elle passe de l'un à l'autre extrême en 4 secondes environ. Elle a des moments de calme, plus ou moins chaud ou froid. Ils coïncident avec ceux où la lumière se calme. Tous se fichent alors. Tout va peut-être finir. Au bout de quelques secondes, tout reprend. Conséquence pour les peaux de ce climat, elles se parcheminent. Les corps se frottent avec un bruit de feuilles sèches. Les muqueuses elles-mêmes s'en ressentent. Un baiser rend un son indescriptible. Ceux qui se mêlent encore de copuler n'y arrivent pas, mais ils ne veulent pas l'admettre. Sol et mur sont en caoutchouc dur ou similaire. Heurtés avec violence du pied ou du poing ou de la tête, ils sonnent à peine. C'est dire le silence des pas. Les seuls bruits dignes du nom proviennent du choc des corps entre eux ou d'un seul avec soi-même, comme lorsque, soudain, à toute volée, il se frappe la poitrine. Ainsi subsistent chair et os. Échelle. Ce sont les seuls objets. Très variés quant à la taille, elles sont simples sans exception. Les plus petites n'ont pas moins de 6 mètres. Plusieurs sont à coulisses. Elles s'appuient contre le mur de façon peu harmonieuse. Debout, au sommet de la plus grande, les plus grands peuvent toucher le plafond du bout des doigts. Sa composition est donc connue à l'égal de celle du sol et du mur. Heurté avec violence d'un échelon, il sonne à peine. Ces échelles sont très demandées. Au pied de chacune, une petite file d'attente, toujours ou presque. Il faut cependant du courage pour s'en servir, car il leur manque à toutes la moitié des échelons, et cela de façon peu harmonieuse. S'il n'en manquait qu'un sur deux, le mal ne serait pas grand, mais l'absence de trois à la file oblige à des acrobaties. N'empêche que ces échelles sont très demandées et ne risquent pas d'être réduites à l'état de simples montants reliés uniquement à la base et au sommet, car le besoin de grimper est trop répandu. Ne plus l'éprouver est une délivrance rare. Les échelons manquants sont entre les mains d'un petit nombre de privilégiés. Ils s'en servent essentiellement pour l'agression et pour se défendre. Les tentatives solitaires pour s'en défoncer le crâne n'aboutissent au mieux qu'à de brèves pertes de connaissances. Le but des échelles est de porter les chercheurs aux niches. Ceux qui n'y vont plus s'en servent simplement pour quitter le sol. Il est d'usage de ne pas y monter à deux. Le fugitif, assez heureux pour en trouver une de libre, peut s'y réfugier en attendant que les colères tombent. Niches ou alvéoles. Ce sont des cavités creusées à même le mur à partir d'une ceinture imaginaire courant à mi-hauteur. Elles n'en intéressent donc que la moitié supérieure. Une bouche, plus ou moins large, donne rapidement accès à un coffre d'ampleur variable, mais toujours suffisante pour que par le jeu normal des articulations, le corps puisse y pénétrer et de même, tant bien que mal, s'y étendre. Elles sont disposées en quinconces irréguliers savamment désaxés et en 7 mètres de côté en moyenne. Harmonie que seul peut goûter qui, par longue fréquentation, connaît à fond l'ensemble des niches au point d'en posséder une image mentale parfaite. Or, il est douteux qu'un tel existe, car chaque grimpeur a ses niches de prédilection et évite autant que possible de monter dans les autres. Certaines sont reliées entre elles par des tunnels pratiqués dans l'épaisseur du mur et pouvant atteindre jusqu'à 50 mètres. Mais la plupart n'ont pas d'autre sortie que l'entrée. C'est comme si, à un moment donné, le découragement s'était fait sentir. À noter à l'appui de cette vue de l'esprit l'existence d'un long tunnel abandonné en cul-de-sac. Malheur au corps qui s'y aventure à la légère et doit, au bout d'un long effort, rebrousser chemin comme il peut en rampant à reculons. Ce drame, à vrai dire, n'est pas l'apanage du tunnel inachevé. Il n'y a qu'à considérer ce qui fatalement va se produire lorsque, dans un tunnel normal par les bouts opposés, deux corps s'engagent en même temps. Niches et tunnels sont soumis au même éclairage et au même climat que l'ensemble du séjour. Voilà un premier aperçu du séjour. L'emploi des échelles est régi par des conventions d'origine obscure qui, dans leur précision et par la soumission qu'elles exigent des grimpeurs, ressemblent à des lois. Tout repose sur l'interdiction de monter à plusieurs à la même échelle. Tant que celui en train de s'en servir n'aura pas regagné le sol, elle reste interdite au suivant. Inutile de vouloir imaginer la confusion qui résulterait de l'absence d'une telle règle ou de sa non-observance. Mais, faite pour la commodité de tous, il n'est pas question qu'elle joue sans restriction, ni qu'elle permette au grimpeur indélicat d'immobiliser son échelle au-delà de ce qui est raisonnable. Car, faute d'un frein quelconque, celui qui se serait mis dans la fantaisie de s'installer à demeure dans une niche ou dans un tunnel laisserait derrière lui une échelle inutilisable à tout jamais. Et si d'autres suivaient son exemple, comme fatalement ils le feraient, on aboutirait au spectacle de 185 corps grimpeurs, moi les vaincus, voués au sol pour toujours. Sans parler de ce qu'aurait d'intolérable la présence d'accessoires ne servant à rien. Il est donc convenu que, passé un certain délai, difficile à chiffrer, mais que chacun sait mesurer à une seconde près, l'échelle redevienne libre, c'est-à-dire à la disposition, dans les mêmes conditions, de celui dont c'est le tour de monter, facilement reconnaissable à sa position en tête de queue, et tant pis pour l'abuseur. La situation de ce dernier ayant perdu son échelle est délicate en effet, et il semble exclu a priori qu'il puisse jamais revenir au sol. Il y arrive, heureusement, tôt ou tard, grâce à une autre disposition selon laquelle, en toutes circonstances, la descente a priorité sur la montée. Il n'a donc qu'à guetter à la bouche de sa niche qu'une échelle vienne se présenter pour l'emprunter en toute quiétude et avec l'assurance que celui en bas sur le point, voire en train de monter, lui cédera le pas. Il est évident que ses chances de redescente rapide seront augmentées, quoique loin d'être doublées, si, à la faveur d'un tunnel, il dispose de deux niches où guetter. Mais les échelles ne servent pas qu'à gagner les niches et tunnels, et ceux que cela n'intéresse plus, ne serait-ce que temporairement, s'en servent simplement pour quitter le sol. Ils montent et s'arrêtent à la hauteur de leur choix pour s'installer le plus souvent debout face au mur. À cette famille de grimpeurs aussi, il arrive de dépasser les délais prescrits. Il est prévu dans ce cas que celui à qui revient l'échelle monte jusqu'au fautif et d'un coup ou de plusieurs dans le dos le rappelle à la réalité. Il n'en faut pas plus pour que celui-ci s'empresse de descendre, précédé de son successeur qui n'a plus ensuite qu'à prendre possession de l'échelle dans les conditions habituelles. Il y va du principe fondamental qui interdit de monter à plusieurs et dont la violation répétée transformerait rapidement le cylindre en pandémonium, tandis que le retour au sol retardé ne nuit finalement qu'au retardataire. Voilà un premier aperçu du code des grimpeurs. Un corps par mètre carré de surface utile, soit 200 corps chiffreront. Corps des deux sexes et de tous les âges, depuis la vieillesse jusqu'au bas âge. Bébés à la mamelle qui, n'ayant plus à téter, cherchent des yeux depuis le giron ou accroupent-on par terre dans des poses précoces. D'autres, un peu plus avancés, circulent à quatre pattes et cherchent parmi les jambes. Détail pittoresque. Une femme aux cheveux blancs, encore jeune, à en juger par les cuisses, appuyée contre le mur, les yeux clos dans l'abandon, serrant machinalement contre son sein un bambin qui s'arc-boute pour mieux tourner la tête et voir derrière lui. Mais de tels tout-petits sont très peu nombreux. Nul ne regarde en soi où il ne peut y avoir personne. Yeux baissés ou clos signifient abandon et n'appartiennent qu'aux vaincus. Très exactement comptables sur les doigts d'une main, ceux-ci ne sont pas forcément immobiles. Ils peuvent errer dans la foule et ne rien voir. À l'œil de chair, rien ne les distingue des corps qui s'acharnent encore. Ceux-ci les reconnaissent et les laissent passer. Ils peuvent attendre au pied des échelles et, quand vient leur tour, monter dans les niches ou tout simplement quitter le sol. Ils peuvent ramper à tâtons dans les tunnels en quête de rien, mais normalement, l'abandon les fige, aussi bien dans l'espace que dans l'attitude. C'est celle-ci, le plus souvent profondément voûtée, qu'ils soient debout, qu'ils soient assis, qui permet de les distinguer des chercheurs sédentaires, dévorant du regard chaque corps qui passe, sans que pour autant la tête bouge. Debout ou assis, ils sont collés au mur, sauf un qui, saisi en pleine arène, s'y est figé sur pied au milieu des agités. Ceux-ci le reconnaissent et évitent de le déranger. Ils sont sujets toujours à de brusques retours de fièvre oculaire, tout comme ceux qui, ayant renoncé à l'échelle, subitement s'y remettent. Tant il est vrai que dans le cylindre, le peu possible, là où il n'est pas, n'est seulement plus. Et dans le moindre, moins le rien tout entier, si cette notion est maintenue. Et les yeux soudain de se remettre à chercher, aussi affamés que l'impensable premier jour, jusqu'à ce que, sans raison apparente, brusquement, il se referme ou que la tête tombe. C'est comme si un grand tas de sable abrité du vent, on enlevait trois grains un an sur deux et l'autre on ajoutait deux. Si cette notion est maintenue, si les vaincus ont encore du chemin à faire, que dire des autres, et quel nom leur donner, sinon le beau nom de chercheur?
Ce qui frappe d'abord dans cette pénombre est la sensation de jaune qu'elle donne, pour ne pas dire de soufre à cause des associations. Ensuite, le fait qu'elle vibre de façon régulière et continue à une vitesse qui, pour être élevée, ne dépasse jamais celle qui rendrait la pulsation imperceptible. Et enfin, beaucoup plus tard que de loin en loin et pour très peu de temps.
Celle-ci se calme. Ces rares et brèves relâches sont d'un effet dramatique inexprimable, pour en dire le moins. Les agités en restent cloués sur place, dans des postures souvent extravagantes, et l'immobilité décuplée des vaincus et sédentaires fait paraître dérisoire celle qu'ils affichent d'habitude. Les poings en voie de cogner sous l'effet de la colère ou du découragement se glacent à un point quelconque de l'arc pour n'achever le coup ou série de coups qu'une fois l'alarme passée. Similairement, ceux surpris en train de grimper ou de porter l'échelle ou de faire l'infaisable amour ou tapis dans les niches ou rampant dans les tunnels. Mais au bout d'une dizaine de secondes, le frémissement reprend et au même instant tout rentre dans l'ordre. Ceux qui erraient recommencent à errer et les immobiles se détendent. Les accouplés reprennent le collier et les poings se remettent en marche. La rumeur qui s'était tue comme coupée au commutateur remplit de nouveau le cylindre. Parmi tous les composants dont elle est faite, l'oreille est finie par distinguer un faible grésillement d'insectes qui est celui de la lumière elle-même et le seul qui ne varie pas. Entre les extrêmes qui contiennent la vibration, l'écart n'est guère plus que de deux ou trois bougies, ce qui fait qu'à la sensation de jaune s'ajoute celle plus faible du rouge. Bref, un éclairage qui non seulement obscurcit, mais brouille par-dessus le marché. Rien n'empêche d'affirmer que l'œil finit par s'habituer à ces conditions et par s'y adapter, sinon que c'est plutôt le contraire qui se produit, sous forme d'une lente dégradation de la vue, ruinée à la longue par ce rougeoiement fulgineux et vacillant, et par l'effort incessant toujours déçu, sans parler de la détresse morale se répercutant sur l'organe. Et s'il était possible de suivre de près, pendant assez longtemps, deux yeux donnés, bleus de préférence en tant que plus périssables, on les verrait s'écarquiller toujours davantage et s'injecter de sang de plus en plus, et les prunelles se dilater progressivement jusqu'à manger la cornée tout entière. Tout cela, évidemment, dans un mouvement si lent et si peu sensible que les intéressés eux-mêmes ne s'en aperçoivent pas, si cette notion est maintenue. Et pour l'être pensant, venu se pencher froidement sur toutes ces données et évidences, il serait vraiment difficile, au bout de son analyse, de ne pas estimer à tort qu'au lieu d'employer le terme « vaincu », qui a, en effet, un petit côté pathétique et désagréable, on ferait mieux de parler d'aveugle tout court. L'effet de ce climat sur l'âme n'est pas à sous-estimer, mais elle en souffre certainement moins que la peau, dont tous les systèmes de défense, depuis la sueur jusqu'à la chair de poule, se trouvent à chaque instant contrariés. Elle continue néanmoins de se défendre, mal, certes, mais honorablement au regard de l'œil, qu'avec la meilleure volonté du monde, il est difficile de ne pas vouer au terme de son effort à la cécité effective. Sol et mur sont vierges de toute marque pouvant servir de point de repère. Le grimpeur qui emporte son échelle pour la dresser à un autre endroit le fait un peu au jugé. Ceci dit, il existe un or sous forme d'un vaincu, ou mieux d'une vaincue, ou mieux encore de la vaincue. Elle est assise contre le mur, les jambes relevées. Elle a la tête entre les genoux et les bras autour des jambes. Les cheveux, ternis par l'éclairage, lui cachent le visage et tout le devant du corps, y compris l'entrejambe. Elle est le Nord. Elle, plutôt qu'un autre vaincu quelconque, en raison de sa fixité plus grande. À qui, exceptionnellement, veut faire le point, elle peut servir. Telle niche, pour le grimpeur, peu enclin aux acrobaties évitables, peut se trouver à tant de pas ou de mètres à l'est ou à l'ouest de la vaincue, sans, naturellement, qu'il la nomme ainsi ou autrement, même en pensée. Il est défendu, évidemment, de refuser le visage ou toute autre partie du corps au chercheur qui en fait la demande et qui peut, sans crainte de résistance, écarter les mains des chairs qu'elle cache et soulever les paupières pour examiner l'œil. C'est ainsi que les cheveux de la vaincue ont été maintes fois relevés et écartés, et la tête soulevée, et mis à nu le visage et tout le devant du corps jusqu'à l'entrejambe. L'inspection terminée, il est d'usage de tout remettre soigneusement en place autant que faire se peut. Ainsi de suite à l'infini, jusqu'à ce que, vers l'impensable fin, si cette notion est maintenue, seul un dernier cherche encore par faible à coup. Le voilà en effet, ce dernier, si c'est un homme, qui lentement se redresse et au bout d'un certain temps rouvre les yeux brûlés et se fraye un chemin jusqu'à cette première vaincue, si souvent prise comme repère. À genoux, il écarte la lourde chevelure et soulève la tête qui n'offre pas de résistance. Dévoré, le visage mis ainsi à nu, les yeux enfin, par l'épouse sollicitée, s'ouvrent sans façon. Dans ces calmes déserts, il promène les siens jusqu'à ce que les premiers, ces derniers, se ferment et que la tête, lâchée, retourne à sa vieille place. Lui-même à son tour, au bout d'un temps impossible à chiffrer, trouve enfin sa place et sa pose, sur quoi le noir se fait en même temps que la température se fixe dans le voisinage de zéro. C'était du même coup le grésillement d'insectes mentionné plus haut, d'où subitement un silence plus fort que tous ces faibles souffles réunis. Voilà, en gros, le dernier état du cylindre et de ce petit peuple de chercheurs dont un premier, si ce fut un homme, dans un passé impensable, baissa enfin une première fois la tête, si cette notion est maintenue.
ACR, Atelier de création radiophonique. Samuel Beckett, Deux langues pour des voix. Par René Farabet. From the beginning to the end. Extrait. Avec Jack McGowan. Mise en scène Samuel Beckett, 1970. Avec Claude Pieplu. Crab's Last Tape, La dernière bande. Avec Rick Lequet, Michael Lonsdale, 1981. Le Dépeupleur, avec David Warilo, 1981. Groupe de réalisation, Philippe Bredin, Michel Créis, Annie Delers, Olivier Dupré, Bernard Laniel, Viviane van der Broek. Samuel Beckett, Deux langues pour des voix.
C'était l'atelier de création radiophonique, une émission diffusée la première fois le 11 février 1980.